Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. C'est un plaisir d'être là. Je viens chercher la bénédiction aujourd'hui. J'ai déjà reçu aussi. C'est un privilège, c'est une joie d'être avec vous. Vous
ne connaissez pas la richesse que vous avez. Vous savez, hier, en remontant sur l'autoroute, là, seul, quand on fait 11 heures de voiture tout seul, faut occuper nos pensées. Et donc, j'avais l'enregistrement de la lecture d'un livre d'édification. Donc, j'ai mis ça, puis j'ai écouté ça pendant des heures, la lecture de ce livre. Et c'est sur la grâce de Dieu, mais il y avait un moment, l'auteur, il fait référence à un poème rédigé par un SDF qui vraiment habitait les rues, dit, mais qui a écrit un poème. Et il l'a envoyé au journal, et puis ils étaient étonnés de la qualité de ce poème, et surtout la pensée. Et la pensée m'a touché aussi. Parce que cet homme a dit, je sentais une ombre qui me poursuivait partout. Il a dit, je courais dans tous les sens. C'était la panique, c'était la fuite, c'était la peur, c'était la crainte. Parce que je sentais cette ombre qui me poursuivait. Il a dit, jusqu'au jour où je n'en pouvais plus. Et cette ombre m'a rattrapé. Et c'est là où je me suis rendu compte que cette ombre, c'était l'ombre de la main de Dieu qui voulait me caresser. Vous savez, et peut-être que c'est le sentiment, et dans ce jour de reconnaissance, peut-être c'est justement le sentiment quand vous pensez, le Seigneur m'a poursuivi jusqu'à ce que je le trouve. Et maintenant, je suis à lui. La douce pensée. Les bénédictions de Dieu ont commencé même avant que nous le connaissions. Hier aussi, quelque part dans la lecture, il disait, faisant référence à ce verset qui dit, « Lorsque nous étions encore ennemis, Dieu prouve son amour. » Il dit, « Si Dieu sait aimer les ennemis, combien plus il sait aimer ses enfants ? » On n'a pas à douter. Oh, nous voulons ouvrir la parole de Dieu. Et quand même, je dois vous transmettre les salutations de Madame Barnes. Elle m'a dit de le faire et je rentrerai dans la honte si je ne pouvais pas le faire. Elle sera avec vous le 30 et elle se réjouit de pouvoir passer la journée avec vous le 30. Donc, on vient un à la fois pour bénéficier au maximum. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Proverbes chapitre 3. Nous allons nous entretenir sur cette question. C'est une question que je pose. À qui Dieu fait-il grâce? Et je ne parle pas du salut, je parle de la vie chrétienne. À qui Dieu fait-il grâce? Et dans le livre des Proverbes, chapitre 3, nous avons un verset qui est repris par deux fois dans le Nouveau Testament, par deux apôtres différents. Donc, Proverbes, chapitre 3, et le verset, c'est le verset 34. Il dit, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Ce passage, ce verset est repris par Jacques dans son épître, et aussi repris par Pierre, et nous allons prendre le temps de voir ces passages. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre comment Dieu conçoit l'humilité. Bon, c'est un mot que, si vous avez appris votre français à l'usine ou dans la rue, c'est certainement un mot que vous n'avez jamais entendu. Mais si vous avez affaire avec la Bible et avec Dieu, c'est un mot que nous entendons souvent. C'est un attribut invisible de Dieu, mais qui est devenu visible lorsque, en la personne de Jésus-Christ, il a mis sa gloire de côté. Et on a pu voir que la divinité, c'est être humble. Jonathan Edwards a exprimé cette pensée en méditant sur l'humilité. Il a dit, souvent, nous trouvons des personnes qui sont prêtes à rabaisser ceux qui sont trop élevés dans leur pensée. On est prêt à voir quelqu'un qui est un peu orgueilleux, un peu, on est prêt à dire quelque chose pour le rabaisser, le mettre à notre niveau. Mais il dit, mais ce que je remarque, c'est que ces mêmes personnes qui sont prêtes à rabaisser quelqu'un et sont rarement disposées à élever quelqu'un jusqu'à leur niveau. Si je vais m'accorder la besogne de ramener quelqu'un là où il doit être, il faut que je sois en même temps prêt de élever celui qui est bas, de l'élever. Sinon, je me comporte en hautain. Je me comporte en orgueilleux. Je suis prêt à rabaisser, mais je veux que tout le monde soit plus bas que moi, au pire, égal. Et ça, c'est le sentiment d'un orgueilleux. Et ce n'est pas le sentiment qu'avait Jésus-Christ. Souvenez que Jésus-Christ, glorieux, nous dit dans Philippiens chapitre 2, eh bien, il s'est vidé afin de pouvoir s'humilier. C'était pas pour nous dire, écoutez, vous êtes des pécheurs, mais vraiment, des bons à rien. Et dans l'état où vous êtes, il n'y a pas de place pour vous dans le ciel. S'il n'avait dit que ça, il aurait mieux fait de rester au ciel. Parce que dans notre ignorance, on aurait mieux vécu qu'une fois conscient de notre péché. Mais ce qu'il a fait, c'est pas seulement de nous dire que nous sommes pécheurs, mais c'est qu'ensuite il nous a tendu la main et il a pourvu le moyen de nous élever. Et nous élever, pas jusqu'à ce qu'il était en tant qu'homme, mais de nous élever dans les lieux célestes. Et tout à l'heure, nous avons lu plusieurs fois dans Éphésiens, et il nous dit, justement, il nous élève et nous donne assis avec lui dans les lieux célestes. Là, c'est l'exemple de Jésus-Christ qui a su nous dire ce que nous sommes, oui. Dans l'esprit, dans l'idée de certains, il nous rabaissait un petit peu. Mais en même temps, il nous relève. Et c'est ça l'humilité. C'est ce qu'il a fait lorsqu'il était humble. C'est rabaisser l'autain, c'est relever les autres. Et finalement, de nous élever tous. Et c'est le sentiment, c'est la pensée que nous devons avoir. C'est pas la pensée qui est dans le monde, ça c'est sûr. Et puis, qui veut les pensées du monde, on en a assez souffert. Mais ce que nous voulons, c'est les pensées de Dieu, l'attitude de Dieu. Certains attribuent cette parole à C.S. Lewis, d'autres à Ken Blanchard, mais il dit, l'humilité, ce n'est pas de penser moins de soi-même, mais plutôt de penser moins à soi-même. L'humilité, c'est pas de me réduire, dire moi, écoutez, moi, vous savez, moi, je suis bon à rien, je sais rien faire, je suis nul. Ça, c'est pas l'humilité. T'as pas besoin de te rabaisser. Dieu n'a jamais demandé de nous abaisser à moins que ce que nous sommes. Mais seulement, il a dit, mais parle moins de toi-même et pense à élever les autres. Aimer les autres plus que soi-même. Estimer les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes, même s'ils ne le sont pas, mais de les estimer, de les traiter comme s'ils étaient supérieurs. Et si tout le monde le faisait, ben personne ne serait oublié. On serait tous encouragés. Et c'est ça l'esprit qui doit être dans une église. Et Christ a pensé à nous et il est mort sur la croix pour notre rachat afin de pouvoir nous élever. Avant de continuer, prions et que le Seigneur nous conduise dans cette réflexion. Père Céleste, oui, tu nous as comblés de bénédictions. Certaines, nous ne sommes même pas conscients. Et il est difficile pour nous d'être reconnaissants. Mais Seigneur, uniquement pour les bénédictions que nous pouvons voir, que nous avons vécues, que nous attendons, Seigneur, celles-là nous suffisent pour vraiment te louer, te rendre grâce, reconnaître que toute bonne chose vient de toi. Et Seigneur, c'est à nous d'avoir cette juste position devant toi, de nous voir à la lumière de ta pensée. Et Seigneur, nous te remercions de ce que tu as été disposé de te, pas de nous réduire à rien, mais de nous relever et faire de nous quelque chose devant toi. Père, et que nous puissions vraiment te prendre en modèle. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, que nous te prions. Amen. Vous êtes dans Proverbes chapitre 3. Lisons le contexte à partir du verset 27. Donc, ce que nous allons voir, c'est ce que Dieu dit à travers de Salomon dans les Proverbes, ce que Dieu dit à travers de Jacques dans son épître, et ce qu'il nous dit à travers de l'apôtre Pierre, vieillard, à travers de son épître. Mais ici déjà, Proverbes chapitre 3, verset 27, il dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas ton prochain va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent. » Et ne choisis aucune de ces voies, aucune, vous avez remarqué? Pas les plus mauvaises, aucune. Car l'Éternel a horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est sur la maison des méchants, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Il dit au verset 34, il se moque des moqueurs. Ce qui ne ressemble pas du tout à ce qui est dit dans Jacques ou Pierre, où il dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il se moque des moqueurs, c'est traduit Dieu résiste aux orgueilleux. Mais lorsque nous En fait, les apôtres, donc Jacques et Pierre, ont cité la Septante. La Septante, en passant, la Septante, c'est la version grecque de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, l'Ancien Testament a été traduit dans la langue grecque avant la venue de Jésus-Christ. Et Septante, qui veut dire 70, parce que c'était 70 hommes qui se sont consacrés à faire cela. Donc c'est la Septante, c'est une traduction. Et là, l'Esprit de Dieu, dans le Nouveau Testament, a cité la traduction. Juste pour vous encourager, parce que chacun d'entre nous, finalement, notre Bible est une traduction. Il n'y a aucun de nous, à part Rébi peut-être, qui lit encore dans la langue originale, mais nous tous, nous lisons des traductions. Mais c'est pour vous rassurer, parce que souvent on dit, dans le grec ça dit, et on a quand même l'impression de dire, ah, comme je ne lis pas le grec, alors j'ai pas une bonne Bible. Écoutez, je vous rassure. Ici, l'Esprit de Dieu, en inspirant l'écriture de l'Ancien aux apôtres, eh bien, les a poussés à citer une traduction. La puissance n'est pas dans l'exactitude de la traduction, la puissance est dans la parole de Dieu. On veut avoir quelque chose d'aussi exact que possible, mais connaissant la difficulté des langues, je remercie Dieu que notre Bible, quelle que soit la langue dans laquelle vous la lisez, elle a le même effet dans votre vie lorsque vous faites confiance. Et donc, je vous rassure, nous peut-être nous avons l'avantage d'avoir une Bible traduite dans une langue qui est riche, le français, et qui arrive à traduire, mais il y a d'autres qui ont des Bibles et ils ont une langue maternelle qui n'est pas riche, qui n'arrive pas à tout dire, ou bien il y en a qui n'ont pas le vocabulaire qu'il faut. Mais vous savez, la parole de Dieu, même si on la rend simple, même pour la faire comprendre à un enfant, lorsqu'il croit, le résultat est le même, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait l'œuvre. Donc, lisez vos Bibles, ne vous dites pas, je ne connais pas le grec, donc je suis handicapé. Non, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Alors ici, la traduction, la Septante, dit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Et donc, nous pourrions comprendre que dans l'Esprit de Dieu, le moqueur, c'est l'orgueilleux. Je suis sûr que lorsque le jour, on a tous vécu cela, quelqu'un s'est moqué de nous. Et quand ils se sont moqués de nous, on n'avait pas l'impression qu'ils étaient en train de nous élever. Hein. Et on avait l'impression qu'ils nous méprisaient. Donc, je n'ai pas de problème à voir moqueur et orgueilleux. C'est vrai qu'on le vit différemment. Lorsque je suis le moqueur, c'est drôle. Quand c'est moi la victime du moqueur, c'est moins drôle. Alors, souvenons-nous de cela et ne nous moquons pas de quelqu'un. Hein, parce que c'est pas agréable pour moi, c'est pas agréable pour les autres non plus. Il nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le « mais » là, cette conjonction, eh bien, elle met en contraste. Il dit « si l'un est vrai, l'autre n'est pas vrai. Si le premier n'est pas vrai, le second sera vrai. » Ou c'est une situation où Dieu résiste l'orgueilleux, ou c'est une situation qu'il fait grâce à l'humble, à celui qui est humble. Et c'est à nous de choisir de quel côté nous voulons être. Chacun d'entre nous, il n'y a pas de point neutre où je suis du côté des orgueilleux. Dieu parle, mais je fais ce que j'ai envie de faire. C'est une forme d'orgueil. Ou bien je suis celui qui est humble, je suis celui qui pense toujours à élever, encourager, soutenir celui qui est abattu, celui qui est découragé. Là, c'est le comportement de celui qui est humble. Celui qui est orgueilleux, il rabaisse, il critique, il détruit, démolit. Celui qui est humble, encourage, édifie, soulève, relève, accompagne. Salomon nous rappelle ici, dans ce contexte, et c'est pour ça que j'ai lu le contexte à partir du verset 27, il parle des comportements de celui qui est orgueilleux, du moqueur. Il dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Tu es en position de force, quelqu'un a besoin de quelque chose, et puis finalement tu le fais attendre. Pour aucune raison, tu as de quoi, mais tu le fais attendre parce que tu aimes bien ce sentiment de « il a besoin de moi, il attend que je lui fasse quelque chose, je me sens bien, je me sens puissant, je me sens fort, mais je suis en train d'abuser de cette personne. » Et ça peut arriver, peut-être que vous l'avez senti lorsque vous allez à l'administration et vous demandez les papiers, et puis certains d'entre nous, on vient de certains pays où il y a beaucoup de ça, hein, et il dit « reviens demain ». Et il est en train de boire du thé. Il revient demain. Il y en a quelques-uns qui ont compris. On vient du même pays, je crois. Et puis après, mais il y a aussi le père qui est en train de regarder la télé. Et puis l'enfant qui vient, qui demande quelque chose. Écoute, plus tard. Non, c'est ton fils qui demande quelque chose. Tu peux répondre. Eh bien, laisse tomber la télé. Qui est le plus important? Non, mais j'aime jouir, il a besoin de moi, et puis il va m'attendre. C'est l'attitude. parfois avec nos épouses, on se comporte, nous les hommes en tous les cas, les épouses elles sont toujours humbles, n'est-ce pas? Mais nous les hommes, on aime bien avoir notre position, je suis chef de la maison, c'est pas ça que la Bible voulait dire en tous les cas quand elle a dit tu es chef de la maison, hein, parce que celui qui est le premier, qu'il soit le serviteur de tous. Donc c'était, il faut bien comprendre ce que Dieu voulait dire par cela. Mais vous savez, il y a besoin et je lui fais attendre inutilement. Mais ne dis pas ton prochain va et reviens demain, je te donnerai quand tu as de quoi donner. Quelqu'un a besoin d'être dépanné et puis je fais attendre. Et moi je dors tranquillement et lui il se dit comment je vais m'en sortir. Et puis ce qu'il ajoute dans la Septante, c'est intéressant, il ajoute une petite note, il dit tu ne sais pas ce que demain peut offrir. Tu lui fais attendre demain, mais qui sait si demain tu seras là pour l'aider. Aujourd'hui, tu pouvais l'aider. Alors, ne le fais pas attendre demain demain n'est pas dans ton pouvoir, n'est pas entre tes mains. Donc, réponds maintenant. Il dit, ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune... c'est le verset 29, je cherchais ma phrase là. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure près de toi. Il dit qu'il médite près de toi, il est près de toi et lui il est assis en position de confiance. Il a confiance en toi et toi tu es en train de calculer quelque chose, comment tu vas profiter de lui. Il me dit ça c'est l'orgueilleux, c'est le moqueur qui se traite. Hein, quand la personne elle me fait confiance et moi je suis en train de monter quelque chose contre lui. Et vous savez, le cœur de l'homme, il est quand même terrible. Il est quand même terrible et c'est fou comment on va le faire. On va le faire avec même des gens très proches de nous, avec des membres de la famille, avec des voisins, avec... Et bon, je sais, on le vit dans le monde. Mais dans le monde, c'est le monde. C'est un peu normal. Mais que le monde ne vienne pas dans notre vie, dans l'Église, dans la communauté des frères et sœurs. Ce sont des situations courantes où on abuse de notre position de force, de position d'une supériorité de quelque sorte, qu'elle soit physique ou matérielle ou autre chose, et on se sert de cela pour faire attendre et pour... plutôt que d'aider, hein, sur ce problème-là, je suis en position de force. J'ai, lui n'a pas. Eh bien, celui qui est humble, eh bien, tout de suite, il va vouloir aider. Il dit, je vais te donner de ce que j'ai, parce que dans ce domaine-là, j'ai, et je peux t'aider. Et finalement, et c'est ça qui est merveilleux dans l'Église de Jésus-Christ, c'est que nous ne sommes pas tous pareils, nous n'avons pas tous les mêmes moyens, nous n'avons pas tous... On est très différents, et c'est ça qui est beau, et Dieu aime ça. Mais ça veut dire que nous avons tous quelque chose à partager. Il y a une situation, il y a des trucs où moi j'ai quelque chose à apporter. Ben, la question c'est de ne pas profiter de cela, mais de le mettre au service. Et c'est pour ça que l'Église de Jésus-Christ est composée de membres, tous différents les uns des autres, mais là pour servir les uns les autres. Et c'est les mêmes principes dans une famille aussi. Alors, lorsque j'ai un pouvoir, c'est pas de faire valoir ce pouvoir, mais c'est de l'utiliser pour élever l'autre. Ça, c'est l'esprit qui était en Jésus-Christ, selon Philippiens chapitre 2. Maintenant, regardons dans Jacques, l'épître de Jacques. Jacques est au chapitre 4. Et nous avons ce même verset. Ce qui est intéressant, c'est de voir le contexte. C'est-à-dire, dans quel contexte il fait appel à ce verset. Et pour cela, eh bien, nous allons lire les premiers 12 versets, parce que c'est au milieu de ces 12 versets que se trouve justement cette citation de l'Ancien Testament. Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère, le mot adultère, c'est, ça veut dire infidèle. Hein. On a un engagement avec par rapport à quelqu'un et on est infidèle. Alors que notre engagement est à une seule personne, hein, c'est comme dans le mariage, c'est le même principe. Et puis je me tourne vers d'autres. Et donc, adultère, c'est que normalement j'ai un engagement avec le Seigneur et finalement je suis en train de tricher en ayant du plaisir avec le monde. Hein. Donc il a dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit. Bon, je sais pas, certains d'entre vous avaient peut-être un majuscule là pour esprit, et d'autres vous avez minuscule. Hein. Finalement, c'est très difficile à savoir, parce que dans le texte original, finalement, tout est écrit en majuscule. Donc, il n'y a pas ce jeu de majuscule minuscule. Dans notre Bible, majuscule c'est pour l'esprit de Dieu, et minuscule c'est pour l'esprit de l'homme. Mais c'est quand même le choix de l'éditeur. Alors, quand vous voyez dans la Bible, vous voyez un grand E, petit E, chaque fois posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu ou c'est l'Esprit de l'homme? Et finalement, là, moi j'ai plus envie de mettre un petit E ici, hein, dans mon texte, peut-être vous avez un petit E, parce que, bien sûr qu'il aime l'Esprit, le Saint-Esprit, bien sûr, c'est lui-même. Tandis qu'il dit, l'Esprit c'est ce qu'il a insufflé dans les narines de l'homme. Et il a dit, vous êtes précieux, parce que en vous, vous avez mon souffle. Hein, le esprit, c'est pneuma. Pneuma, hein, vous connaissez le mot pneumatique, c'est l'air. Hein, c'est l'esprit. Et il dit, il chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et il accorde au contraire une grâce plus excellente. Et c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point en mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es le juge, parce que le juge est supérieur à la loi. Hein, tu te mets en position de supériorité par rapport à la loi de Dieu, parce que tu es en train de juger. Il n'y a que Dieu qui est supérieur à sa loi. Il dit... Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Alors c'est intéressant parce que, en général, lorsque nous lisons ces versets, nous lisons soit les premiers versets, donc jusqu'au verset 5, ou bien on lit à partir du verset 7 et puis on applique. Mais Jacques, poussé par l'Esprit de Dieu, a mis ces deux passages ensemble. En fait, c'est un même thème et il traite un même problème. Et le verset clé, c'est justement « Dieu résiste aux orgueilleux ». Donc, c'est les premiers cinq versets, ce sont les orgueilleux. Et à partir du verset 7, ce sont les humbles. Et il dit « Voilà, il y a... » Et il s'adresse aux chrétiens, il n'est pas en train de parler aux gens du monde, il est en train de parler aux chrétiens. C'est un problème, Jacques parle, c'est un pasteur d'église qui parle à des chrétiens. Parce que ça peut exister parmi les chrétiens. Et il dit, il parle aux orgueilleux, il dit, mais sachez, Ce genre de comportement, c'est le comportement d'un orgueilleux. Et si tu es orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux. Et, mais plutôt que d'être orgueilleux, soyez humbles, et voilà le comportement de ceux qui sont humbles. Et donc ce passage est partagé de ces deux manières-là. Les chrétiens qui sont animés de l'orgueil sont imbibés d'eux-mêmes, ils pensent qu'à eux. Et tout révolue autour de eux, c'est le soleil de l'univers. Hein. Tout se décide en fonction que ça me plaît ou ça me plaît pas. Hein, tout, si c'est ça me plaît pas, c'est pas bien. Si ça me plaît, c'est bien, peu importe ce que c'est. Ça, c'est le comportement de l'orgueilleux. On peut l'être pour son petit monde, c'est-à-dire son foyer. Comme on peut l'être pour dans l'Église, comme on peut l'être pour ailleurs. Hein. Et puis certains, c'est au niveau mondial et international même. Mais vous avez remarqué ce qu'il dit. Il dit, si vous êtes orgueilleux, si vous avez ce comportement-là, il dit, même si vous êtes enfant de Dieu, vous demandez à Dieu, vous n'obtenez pas. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il dit, vous demandez mal, parce que c'est pour satisfaire vos passions, mais vos passions sont égocentriques. Vos passions, tout est pour vous. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Aide-moi, donne-moi, apporte-moi, aide, soutiens-moi, défends-moi, c'est tout moi, moi, moi. Vous savez, ces prières-là, le Seigneur, il doit s'en lasser après un moment. Il dit, mais c'est qui le Dieu? C'est toi? Parce que où je prie, donne-moi, où je prie, Seigneur, tu vois mon frère, soutiens-le. Et puis quand je commence à prier pour mon frère, souvent, le Seigneur me donne le fardeau de l'aider. Il dit, ben, je vais me servir de toi pour l'aider. C'est pour ça qu'il y en a qui ont peur de prier de cette manière-là. Mais il dit, mais et Dieu ne répond pas. Et Dieu n'apporte pas. Il dit plutôt, celui qui est humble, eh bien, il dit, je vous exhorte à vous soumettre à Dieu. Résistez au diable et fuira loin de vous. Vous savez, résistez au diable. Vous avez certainement entendu beaucoup de choses là-dessus. Il dit, le diable, il vient, il dit, au nom de Jésus, dégage! Écoutez, pour qui vous vous prenez pour que le diable vienne vous voir? Le diable n'est pas omniprésent. Il se déplace pas pour n'importe qui. Vous prenez pour qui que ce soit le diable, Satan vient? Le Satan, il s'est déplacé pour Jésus, ça c'est sûr. Après, il a dit au démon, il a dit, écoutez, moi je m'en occupe. Mais moi, je suis loin d'être. Et le diable, il peut me tenter avec un chocolat, hein, il n'a pas besoin de se déplacer lui. Tout ce qu'il fait, c'est défiler des photos. Tout ce qu'il fait, c'est que quelqu'un passe. Tout ce qu'il fait, c'est que quelqu'un dise un mot, tout d'un coup, tout le péché qui était en moi. Hein, c'est comme, on est quoi? Vous savez, nos cœurs, c'est comme les flaques d'eau après une pluie. Le jour après, l'eau paraît être limpide. Mais il suffit que quelqu'un vienne prendre un bâton et puis, et tout d'un coup, elle est boueuse. Souvent, nos cœurs, c'est comme ça aussi. Si personne ne m'irrite, tout est calme, j'arrive au culte. Ah, l'eau est limpide. Elle pourrait être bue. Mais si jamais quelqu'un dit quelque chose, tout d'un coup, ouh! C'est les volcans, hein. Il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, résistez à l'influence de son monde. La meilleure manière, c'est pas en insultant le diable, ni en disant des choses contre le diable, ou en le traitant de démon. Il dit, ne parlez même pas. C'est le Seigneur qui s'en occupe de lui. Mais il dit, vous soumettez-vous à Dieu. Ça, c'est plus difficile qu'insulter le diable. dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». Et ce sera la meilleure manière de résister au diable. Si, il dit, qu'est-ce que je vais faire avec celui-là? Il est soumis à Dieu. Comment je vais le tenter? Par où je vais m'approcher? Il ne pense qu'à Dieu. Il n'a que Dieu. Il n'écoute que les paroles de Dieu. Comment je vais le tenter? Et le diable, il s'en va. Il dit, j'ai autre chose à faire. Je vais perdre mon temps avec celui-là. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Et vous résisterez au diable. Vous savez, dans un troupeau de brebis, je les ai observés. Je vous apprends rien pour dire que j'ai grandi en Algérie, hein. Et c'est important que vous le sachiez. Ça explique beaucoup de choses. Mais j'ai vu des troupeaux suivre. Vous savez, un troupeau, un troupeau ne suit jamais le berger où ils sont tous groupés autour de lui, comme ça, tous prêts, en train de se bousculer pour être près de lui pendant qu'il marche. Ça se passe jamais. C'est toujours derrière. Il y en a quelques-uns qui sont prêts. Il y en a un peu plus qui sont un peu à 2 mètres. Il y en a plus qui sont à 5 mètres. Et puis il y en a qui sont à 25 mètres. Ils suivent de loin comme ça. Mais vous savez lequel se perd, lequel s'égare, c'est celui qui t'a fait derrière. C'est lequel qui est distrait. Celui qui est juste là derrière le berger, lui, il a les yeux sur le berger, il le suit. Il n'y a pas de problème, il n'est pas tenté. Tandis que celui qui traîne derrière, tout d'un coup, il voit une touffe d'herbe là, il dit « Wow !» Et puis il va. Et le temps qu'il finit ça, il ne voit plus le berger, il est où il est ? Il ne sait plus. Vous savez, il y a combien de chrétiens comme ça ? Pour une touffe d'herbe, on s'est détourné de Dieu. Vous imaginez ? Il dit, soumettez-vous à Dieu. Il dit, verset 8, approchez-vous de Dieu dans ce troupeau-là. Soyez pas à 3 mètres, 5 mètres. Cherchez à être tout près de lui. Comme ça, vous ne serez pas distrait. Vous ne verrez pas les touffes d'herbe. Vous aurez les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de notre foi. Il dit, nettoyez vos mains. Oui, nos mains sont souillés. Il y a combien de choses? Il dit, nettoyez vos mains. Purifiez vos cœurs. Ah, comment est-ce qu'on purifie? Si vous voulez qu'un cœur soit 100% pour le Seigneur, le seul moyen de le protéger, c'est de le remplir du Seigneur. S'il y a du vide, s'il y a des creux, il ne reste pas. Le vide, ça n'existe pas. Le vide se remplit toujours. Les heures creuses de la soirée sont les heures où on est livré à la tentation. Purifiez vos cœurs. Purifier, ça veut dire remplacer. Par ce qui est pur. Que tout ce qui est pur, et vous connaissez la liste, et Philippiens 4:8, soit l'objet de vos pensées. Et il ajoute, et sentir votre misère. Prendre conscience. L'apôtre Paul, et j'entendais ça hier en lisant, c'est l'apôtre Paul, il était tellement préoccupé avec le Seigneur, que plus il se donnait au Seigneur, plus il sentait sa misère, son état, et dit, mais je suis, parmi les pécheurs, je suis le plus grand, le premier. Celui qui n'est pas très proche du Seigneur, quand on lui dit, mais tu sais, tu es un pécheur, il dit, oui, mais il y a pire que moi, hein, moi, je suis pas si mauvais que ça. Vous savez, celui qui parle comme ça, il connaît pas beaucoup le Seigneur. Celui qui a passé du temps avec le Seigneur, qui vit près du Seigneur, en communion avec le Seigneur, vous lui parlez de péché, il dit, tu sais, mon frère, c'est pire que ce que tu penses. Je connais mon cœur. Et je ne peux pas lui faire confiance. Sentez votre misère. Se soumettre à Dieu, s'approcher de Dieu, nettoyer ses mains, se purifier nos cœurs, sentir notre misère Eh bien, nous dit au verset 10, eh bien, c'est ça. Humiliez-vous. Pour résumer tout cela, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Verset 11, il dit, celui qui est humble devant le Seigneur ne parlera pas en mal de son frère ou de sa sœur. Parce que n'oublions jamais que mon frère en Christ, ma sœur en Christ, mon père les a choisis. Vous savez, je suis enfant de pasteur. Et au cas où vous ne le saviez pas, les enfants de pasteur, ce n'est pas des anges. Parfois, il est arrivé de traiter, je traite mon frère d'espèce d'âne. Peut-être c'était justifié, j'en sais rien. Ne lui dites pas, hein, parce que certains vous le connaissez. Il dit espèce d'âne. Et vous savez comment ma mère réagissait? Je suis sa mère. Et oui, mais ça c'est maman qui disait ça. Et notre Père Céleste, il dit, c'est mon fils, je suis son père, et tu lui dis ça? Quand je blesse un frère, je touche. L'apôtre Paul, il en sait quelque chose. Parce que le jour où il a pris cette claque, il est tombé par terre, il a regardé dans le ciel, il dit, tu sais, c'est moi que tu persécutes. Chaque fois que tu touches un de ses enfants, tu me touches moi. Et c'était une révélation pour Saul. Mais ça reste vrai pour nous tous. Quand Étienne était sur le point d'être lapidé, il a regardé dans le ciel et qu'est-ce qu'il a vu? Le Seigneur debout. Alors que nous savons que le Seigneur est monté dans la gloire pour s'asseoir. Mais il ne reste pas inconscient de ce qui se passe à ses enfants. Et il se lève pour un enfant. Regardez le chapitre 3 et verset de 1 Pierre, chapitre 3 et verset 7. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Comme avec un sexe plus faible, honorez-la comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il dit, le Seigneur t'a donné une position de responsabilité dans la maison. Il t'a donné une position d'autorité. Elle, si elle aime le Seigneur, elle va prendre sa place, elle va respecter cette place que le Seigneur t'a donnée. Mais si tu abuses de cette position et tu te comportes en orgueilleux vis-à-vis d'elle, il dit, souviens-toi que Dieu résiste aux orgueilleux et ton comportement fait obstacle à tes prières. Le Seigneur ne peut pas te bénir. Le Seigneur fait justice dans le foyer et nous devons faire très attention. Personne ne sait ce qui se passe à la maison, mais le Seigneur sait. Et il sait comment je parle à ma femme, comment je parle à mes enfants, alors que eux, ils sont obligés d'être soumis. Et s'ils sont poussés à la révolte, il y a peut-être des raisons, mais ils sont obligés d'être soumis. Mais le Seigneur dit, tu abuses de ton autorité sur eux, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Continuons dans 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. Dans cet épître, c'est Pierre, c'est le vieillard, hein, c'est à la fin de sa vie. Et il écrit aux chrétiens, et vous regardez dans le premier chapitre, le premier verset, vous voyez, il s'adresse à ceux qui sont étrangers, dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie mineure, la Bithynie. Il s'adresse à tous, partout. Et c'est la grande période de persécution. L'Église de Christ est persécutée. Il les encourage. Il dit, mais soyez fidèles. Et pendant 4 chapitres, il les encourage à la fidélité. Il dit, Dieu, Jésus a souffert pour nous. Et il s'est pas plaint. Et nous, résistons, soyons fidèles malgré la persécution, malgré la perte de tout ce que nous possédons, malgré tout cela. Restons fidèles pendant 4 chapitres. Et au 5e chapitre, eh bien, il fait une recommandation, des exhortations personnelles. Et c'est intéressant ce qu'il dit au chapitre 5. C'est une note qui vient de l'ancien, ancien des anciens, et qui s'adresse aux églises. Et donc au chapitre 5, et je lis à partir du verset 1, il dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant des modèles du troupeau. Lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Donc il dit, d'abord aux anciens, écoutez, n'abusez pas de votre position, mais et puis faites-le aussi de tout cœur. Hein, ne faites pas par devoir, parce que quand on fait par devoir, le cœur n'y est pas. Il dit, faites-le vraiment de votre cœur, pour le Seigneur. Et le Seigneur saura et il récompensera. Et après, au verset 5, il dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » Et ensuite, il y a une exhortation pour tous. Il dit, « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Dans vos rapports mutuels, dans vos relations les uns avec les autres, que ce soit toujours dans l'humilité. Et c'est là où il ajoute, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Encore ce même verset, et il l'applique à une autre situation. Et verset 6, il dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » L'exhortation à tous, hein, s'il a dit, si j'ai un mot à dire, si j'ai juste une exhortation à dire à tous, il dit, dans vos rapports mutuels, eh bien, agissez avec, dans l'humilité. Il dit au verset 6, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en main. Et puis, au verset 5, à la fin du verset 5, revêtez-vous d'humilité. Il emploie ces deux expressions. Humiliez-vous, et ensuite il dit, revêtez-vous d'humilité. Premièrement, l'humilité, c'est pas une chose que quelqu'un peut vous imposer. On peut vous humilier, mais on peut pas vous rendre humble. On a tous été humiliés quelque part dans notre vie, on s'en souvient, ça fait très mal. On préfère frappé par autre chose qu'être humilié. Ça fait très mal à l'être humain. Mais il dit, mais tu peux pas enseigner ou imposer l'humilité. Finalement, c'est un choix personnel. C'est moi qui décide d'être humble. Et puis il dit aussi cette humilité, qu'elle soit tellement vraie en vous qu'elle paraisse à l'extérieur. C'est pas juste revêtez-vous d'humilité, je fais semblant d'être humble et j'adopte le comportement de celui qui est humble, mais en fait je suis rempli d'orgueil. Non, il dit d'abord humiliez-vous, soyez vraiment humble à l'intérieur, mais ensuite que cette humilité paraisse. Et avec Jésus-Christ, c'était le cas. Hein, quand on voyait Jésus-Christ, eh bien on ne pouvait pas soupçonner qu'il y avait de l'orgueil en lui, il n'y en avait pas. Alors qu'il avait toutes les raisons pour vraiment, mais il était supérieur. mais il a revêtu, il s'est vidé de sa gloire et il a revêtu la nature humaine afin d'être parmi nous. Et donc nous devons porter cette humilité comme un vêtement, mais que ça soit d'abord, que ça soit vraiment dans nos cœurs. Parce que Dieu résiste à l'orgueilleux. Peu importe qui il est, et quel soit son rang, quelle que soit sa position, ou le pouvoir qu'il fait valoir, même s'il ne l'a pas. Il dit, Dieu résiste à l'orgueilleux. Mais il fait grâce à celui qui est humble. Une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas et qu'il nous donne. La miséricorde, c'est de ne pas me donner ce que je devrais recevoir. Je devrais être puni, je ne le suis pas, on a eu pitié de moi. La grâce, c'est quand je ne devrais rien recevoir et Dieu me donne une chose. Il me donne ce que je ne mérite pas. Et finalement, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons été bénéficiaires et de sa miséricorde, parce que la condamnation que devait tomber sur nous à cause de notre péché, il ne nous le donne pas. Et d'autre part, il nous donne des bénédictions dont on n'est pas digne. Toutes les bénédictions spirituelles. Il y a de quoi être reconnaissant et être rempli d'actions de grâce. Et il dit, et c'est lui qui élève au temps convenable. Si vous lisez la fin de ce passage de Philippiens 2, il dit, ben lisons-le. Plutôt que, c'est jamais mieux dit que dans le texte. Éphésiens chapitre 2, et je lis au verset 8. Et voilà tout le principe. Et il nous avait dit déjà, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Et là, au verset 8, il dit, il s'est humilié lui-même, c'est lui, c'est pas, même pas Dieu qui l'a humilié, c'est lui qui s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la croix, même jusqu'à la mort de la croix. Non, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, et qui est-ce qu'il a élevé? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Lui s'est humilié, Dieu l'a élevé. C'est comme ça que ça se passe. Chez les hommes, je m'élève et j'humilie les autres. Chez Dieu, c'est humilie-toi, je t'élèverai au temps convenable. C'est peut-être pas le temps que je choisis. Moi, j'aimerais bien apparaître, Seigneur, voilà, il y a du monde là pour me voir, vas-y, élève-moi. Puis il dit, moi, je connais pas ça, c'est pas de l'humilité ça. Comment veux-tu que je t'élève? Certains attendent jusqu'à la gloire pour être reconnus. Il y a des gens qui n'ont jamais été reconnus sur terre pour ce qu'ils ont fait pour le Seigneur, mais lorsqu'ils seront dans la gloire, Dieu les reconnaîtra. Il dira, Madame Untel, approchez-vous. Et tout le monde se regarde, Madame Untel, on n'a jamais entendu cette personne-là. Il dit, viens, j'ai des couronnes pour toi. Mais elle vient d'où, elle? Oui, elle n'a jamais été reconnue. Mais c'est une sœur qui a été fidèle avec ce qu'elle avait, dans les conditions où elle se trouvait. Mais Dieu a vu. Il élèvera au temps convenable. L'enseignement pour nous, ce matin, c'est que si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, alors je vous dis quelque chose. Christ, Jésus, t'es dans la gloire céleste. Et vous a vu pécheur. Il a dit, il faut que je descende l'aider. Il a mis de côté tout ce qui gênerait, qui l'empêcherait de devenir homme. Il est descendu jusqu'à pour vous aider, pour prendre votre main. Vous êtes tombé dans une fosse sceptique, il descend dans la fosse sceptique du péché pour vous retirer de la fosse sceptique entre-temps, il a été sali. Mais il a fait le nécessaire pour vous purifier. Venez à la croix et tout est là. Dites, Seigneur, je vois que tu t'es humilié jusqu'à la mort de la croix pour pouvoir m'élever et faire de moi ton frère. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes déjà passé par cette étape, alors il nous dit, humilions-nous devant le Seigneur. Parce que c'est le comportement qu'il a eu vis-à-vis de nous, c'est à nous d'avoir ce comportement vis-à-vis des uns et des autres. Pas l'humilité telle que les hommes le connaissent, telle que Dieu le conçoit. Et lui nous apporte. Et c'est là la délivrance, et c'est la joie, c'est l'épanouissement que Dieu nous donne. Et c'est là, lorsque nous avons tous ce comportement, mais n'attendez pas que les autres l'aient pour l'avoir. Le Seigneur me parle, moi, je commence. Même s'il n'y a personne d'autre qui entend. Le Seigneur me parle, je commence. Quand Jésus a parlé à Saul la première fois, les autres ont entendu du bruit, ils ont vu des lumières, mais ils n'ont pas entendu dans leur cœur. Il n'y a que Saul qui a été transformé. Mais il s'est levé et puis il est parti. Il n'a plus quitté cette vision céleste. Que le Seigneur nous aide à être fidèles. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous sommes reconnaissants à toi pour ces pensées que tu nous donnes. Elles sont là depuis longtemps. Ce sont tes pensées. Ce ne sont pas les pensées du monde. Et c'est vrai que les pensées du monde sont aussi éloigné de tes pensées que le ciel et de la terre, c'est vrai. Mais par ton esprit qui est en nous, nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons été régénérés, qui sommes maintenant le temple du Saint-Esprit, eh bien tu voudrais que nous adoptions cette attitude d'humilité. Que nous soyons connus pour cette attitude. Non pour notre connaissance, ni pour notre expérience, ni pour notre ancienneté, ni pour autre chose, mais connu pour notre humilité devant toi. Une vraie humilité. Seigneur, et je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils soient attirés par celui qui a su être humble, comme aucun autre a pu être humble, afin de nous élever. Il n'est pas venu pour nous rabaisser, il est venu pour nous informer là où nous étions et nous relever. Seigneur, béni soit ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils Père, celui qui nous a rachetés et celui qui nous offre à toi. Amen.